RFI, Radio France International.
Bonjour Luc Tellemans.
Bonjour.
Pour cette exposition à Palazzo Grassi, L'Appel, vous avez une œuvre qui est mise dans le poster, qui est dans l'affiche. 27, right?
Et
pourquoi vous choisissez cette œuvre pour l'affiche?
Parce que c'est une œuvre qui, en train, donne d'une manière presque exemplaire l'idée de l'angoisse qu'on voit, d'un cri qui est assourdi, qu'on ne peut plus entendre. Et d'ailleurs, c'est un visage qui n'est pas vrai. C'est un visage qui a été projeté sur une poupée, qui faisait partie d'un petit bout de film d'un sitcom brésilien qui s'appelle Les 3%. Alors, le sitcom, c'est l'idée qu'il y a 3% d'une génération sous leur trentaine qui peuvent passer d'une s'améliorer leur existence vers un autre région offshore, mais ils doivent passer des tests sévères et seulement 3% de tous les gens qui sont demandés de faire ces tests peuvent atteindre cette but. Les autres vont mourir. Et un des tests est en fait une chambre noircie où on voit à chaque reprise le même visage, mais avec des différentes expressions. Et là, les gens qui ont été testés devaient deviner c'est ce qui s'est passé avec la femme qui avait ce cri assourdi. Et alors là, la réponse était qu'elle était empoisonnée. Mais la raison que j'ai pris cette image, c'est une image qui traduit directement sur une façade, sur une certaine grandeur, et ça joue avec l'idée de l'angoisse qu'on a, instruit d'une manière génétique dans la peinture de Caravaggio, de n'importe quoi, mais aussi parce que c'est ce qui s'est passé en 2017, est invraisemblable. D'ailleurs, on a déjà eu le Brexit, on a eu Trump. L'Europe est en train de perdre tout. Alors, c'est l'image emblématique, pour moi, représente ça. Alors, c'est pourquoi que je donne le titre 2017.
En fait, c'est comme un détail d'un grand tableau. Vous mettez cette affiche avec toutes les autres images dans le contexte que Obama, dans son dernier discours à l'ONU, parlait le rapport entre 1% de population et 99% de population restante sur la monopolisation de la richesse, aussi sur le contexte des Gilets jaunes à Paris. Donc, vous êtes en train de parler avec l'exemple de Brésil, cette monopolisation de richesse chez un des représentants de 1% de population la plus riche du monde.
Oui, mais c'est en fait, d'ailleurs, on est dans une ville qui est assez pervers parce que dans le temps, quand la ville était à l'auteur sur le plan économique, c'était faisait pas partie de l'Italie. C'était quelque chose comme un état de ville construit sur une lagune qui était la porte pour l'Orient. Le Palazzo même a été construit par les Grazzi, qui est une famille fort fortunée, et maintenant elle appartient à quelqu'un qui est de nouveau fort fortuné, mais qui a fait de cet endroit une sorte de fondation. Exemplaire, en fait, le fait qu'on pouvait faire un lien direct entre les Medici, les Borgia, Arnaud, Prada et M. Pinault. C'est une sorte d'inversion de la Renaissance, si vous voulez. Dans ce sens-là, c'était important.
Inversion ou succession?
Non, inversion. Non. Dans ce sens-là, c'est important que j'ai opté de faire pas un élément de faire un rétrospectif, par exemple, dans cet immeuble, de faire quelque chose comme une histoire qui est dans son entièreté un peu cachée, c'est-à-dire de ne pas remontrer Wanekitoko, Lumumba et toutes ces choses-là, non. Et c'est pourquoi aussi que le titre de l'expo est l'Appelé, qui est d'ailleurs aussi en arrière-tête Malaparte, qui était un écrivain assez ambigu, mais qui était aussi un produit et un parti de l'histoire, de son propre histoire, et victime du propre histoire, dans une période où l'Europe a perdu énormément. Maintenant, on est en train de perdre encore plus. Oui, et dans ce sens-là, il y a un élément dans une ville qui est en train de se encombrer réellement physiquement en destruction, par exemple, dans la pourriture. J'ai trouvé ça une ligne très fine. Et ça, c'est la subtilité de l'expo. Et la subtilité aussi que les gens, parce que je veux pas, c'est un expo qui est fait pas pour les gens dont, qui ont les œuvres ou qui ont acheté les œuvres ou qui vont acheter les œuvres ou les experts. Non, c'est un expo pour un grand public. Parce que, en fait, c'est un emplacement touristique, c'est une carte postale. Alors, dans ce sens-là, la responsabilité de faire un expo dans des lieux. Et moi, je viens d'une classe sociale qui n'est pas du tout la classe des riches. Alors, j'ai fait toute une trajectoire pour être dans la position de faire un expo pareil, par exemple, dans un endroit si riche, si luxueux. Alors, je sais très bien d'où je viens. Ça veut dire que les gens sont toujours curieux comment les riches vivaient. Et dans ce sens-là, ils vont visiter le lieu avec ses propositions. Ils vont voir que les murs sont pas bourrés, il y a énormément, les œuvres sont emplacées méticuleusement, il y a énormément d'espace qu'on peut voir les images, image par image, et les images n'ont rien à foutre réellement avec les propositions de la domicité de cette maison. Mais ça donne la force d'une manière de repenser et ça va travailler sur la mémoire.
Du point de vue plastique, ou bien du point de vue d'organisation de l'exposition, dans ce lieu, il y a deux parties. Une partie, c'est la deuxième partie, c'est comme si dans un musée, c'est White Cube, etc. Mais la première partie, en fait, c'était déjà dans un décor historique et avec toutes les techniques plastiques en place, c'est bois sculpté, peint avec gesso, et plafond, et aussi les tableaux sur le ciel, et qui parlent parfaitement de gloire d'hier et chute d'hier. Quand ces œuvres-là, ces anciennes techniques d'artisans à haut niveau, regardent de haut en bas vos œuvres, et qui parlent l'histoire des contemporains, ou qui détournent, qui déforment les images avec votre métaphore, est-ce que vous sentiez un dialogue, ou bien un conflit, ou bien vous êtes un peu intimidé?
En fait, je dois dire que c'est ce qui m'a choqué le plus, c'est que, en fait, mes œuvres résonnent beaucoup plus bien dans un espace qui n'est pas un White Cube. Et ça m'a toujours choqué. J'ai eu cette expérience à une autre occasion, c'était au Haus der Kunst à Munich, où on a même le même marbre autour des portes et toutes ces choses comme ça, qui n'est pas vraiment un White Cube. Ouais. Alors, dans cet ordre, ce sont des immeubles un peu autocrates que mes peintures se résonnent le plus, le mieux, parce qu'ils sont aussi autocrates et qu'ils sont faits et basés sur une violence intériorisé. Et c'est comme ça. Par exemple, si on faisait un expo de Tintoretto, ce ne serait qu'un expo de Tintoretto. Si on faisait, par exemple, un expo de Michael Borraman, ce serait quelque chose trop près de cette antiquité. Non. Les œuvres que j'ai faites sont en conjonction à ce que l'espace est, mais en même temps, ils ont... Ça, en fait, c'est une sorte de mariage très intéressant. Alors ça m'a choqué. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer.
Vos idées, c'est-à-dire une domination de classe monopolisante et la souffrance du peuple ou bien l'histoire de...
Mon histoire est une histoire de revanche, de vengeance, pure et nette. Alors, quand j'étais petit, dans l'école, j'étais pestré comme fond. À fond, j'étais presque autiste, jusqu'à j'avais 15 ans, je suis grandi, j'ai parlé, et j'ai toujours dit, on va voir. La manière de voir, c'est ma manière de voir. Vous voyez? La résistance, d'être résilient, tout ça, c'est une histoire de violence. Et cette histoire de violence est née en tant que... Elle fait partie de cette manière de, du pictural, de la visualisation, pas dans le sens de visualiser la mutualisation pure et nette, mais c'est le avant, l'après, ce sont les zones intermédiaires qui vous donnent un sens de danger. Et c'est ça qui est toujours là, parce que c'est comme moi, ce sont mes propres angoisses, vous voyez. Et avec un immeuble comme ça, qu'on peut dire intimidé, par exemple, certainement, il y a un élément d'intimidation, parce que c'est pas un lieu où on a vécu, c'est pas un lieu où on a un lien, c'est un lieu qui est inexplicable pour la classe sociale dont on vient, vous voyez. Mais juste qu'à cause de ça, l'idée de vengeance est primordiale.
Mais ce soulèvement, cette vengeance, cette colère que vous avez représentée, qui traverse, qui transpire de vos œuvres, alors certes, par les moyens d'étonnement, déformation et métaphores plus ou moins cachées, ce revanche, cette mécontentement, colère, et finalement, c'est un sujet, mais c'est le cœur de l'exposition, c'est la pensée, c'est le moteur, mais finalement, moyen plastique pour serre cette idée, et c'est une illustration, ou bien c'est une autre chose que je n'ai pas encore pigé.
Non, en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas pigé moi-même, parce que c'est quelque chose qui entre dans les émotions, dans les trucs le plus profond d'un être, et qu'on ne démontre pas facilement. Ça se démontre par le temps. Et dans ce sens-là, c'est une chose qu'on ne sait pas. Quand on fait des trucs pareils, on n'est pas complètement conscient de ça vraiment, mais simplement moitié, c'est-à-dire. J'ai toujours eu une vision du monde assez sceptique, pessimiste, par simplement la manière de se défendre contre ce monde, un côté défensif aussi, parce que dans ce sens-là, on ne pourrait pas être si facilement déçu. Vous comprenez ? Alors c'est une manière de se protéger aussi, le pessimisme, pour ne pas être déçu. Alors c'est une manière de se protéger, d'avoir une proposition assez réaliste envers le monde, dans le sens qu'on ne devait pas sous, mais aussi pas surestimer des choses, non des personnes. Alors ça veut dire qu'il y a un... Ça, je dis avec ça, c'est la violence. La violence dans, culturelle, dans le sens que la culture est quelque chose qui vieillit. Il y a un vieillissement, il y a un contournement, il y a comme manière de... quelque chose d'être âgé ou pas âgé, mais ça entre dans le génétique, dans le DNA d'une culture, d'un peuple, de n'importe quoi, et que ça ressort à des certains points. Dans ce sens-là, ce ne sont pas des éléments complètement uniques. Ce n'est pas que je comprends l'artiste comme le génie, non. Je comprends l'artiste comme quelque chose qui est soumis à cette réalité qui existe pour tout le monde. Aussi pour moi, alors.
En fait, vous êtes en train de parler de trouver un espace pour un certain confort. C'est-à-dire trouver un espace pour vous-même, pour un certain confort.
Non. C'est une espèce de responsabilité, pas de confort. Non, ça vous avez mal compris. Non.
D'accord.
Non, c'est une idée où on fait des choses qui sont relevantes, qui sont importantes, on ne fait pas. Ça, c'est évident. C'est à cause de ça. Moi, dans ce sens-là, moi, je ne suis pas mon œuvre, mais pas moi. Je ne vais pas te parler de mes problèmes personnels, ou de peigner ma femme, ou les enfants que je n'ai pas, des choses qu'on peut. Non, pas dans ce sens-là. Même l'autoportrait est quelque chose qui est complètement dégagé, et qui me montre une image pas flattante de moi-même, c'est pourquoi je ne l'ai pas. Alors, vous comprenez ? Alors, c'est dans ce sens-là. Il y a toujours la distance qui est très importante.
Donc, en fait, le terme, ou bien les enjeux des expositions à travers de votre responsabilité que vous définissez, est assez précise. Mais en tant qu'artiste, quand on parle de moyens d'un plasticien, pensez-vous que on l'entend dans l'art contemporain, c'est-à-dire on dit oui, c'est une illustration, illustration c'est moins sophistiqué, il y a d'autres choses plus sophistiquées que ça. Et comment expliquez-vous et les moyens que vous avez employés et pour qu'une richesse de discipline est employée pour mettre en valeur de vos enjeux.
D'ailleurs, je veux dire que je n'ai jamais vu la nécessité ni le point d'ajuster ou de riposter envers les nouveaux médias, par exemple. Aucune importance, c'est un enjeu qu'on ne va jamais gagner. C'est mieux de l'incorporer dans le toolbox pour en finir à une picturalité différente. Alors, dans ce sens-là, c'est quelque chose comme on utilise. Mais la matière première reste, en fait, la peinture, reste la peau, reste la trace, les choses qui sont, d'un certain point, difficiles à dont on se souvient le moins, parce que le détail est à l'extrémité. Le tracé, c'est comme vous écrivez quelque chose. C'est pas un style. Ça devient qu'on va élaborer sur des choses qu'on fait, on perd, en fait, un certain élément du naturel, de ce qui a été toujours donné, qu'on perd la réalité. Alors, c'est ça qu'on peut éviter. C'est-à-dire que là, il y a un pragmatisme assez intéressant qui est chirurgical, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est, je fais dans une journée où c'est une journée que de mon choix, dont je dois me préparer mentalement, et où je fais un tableau dans une journée, et j'ai besoin de m'incarcérer dans cet élément de temps pour que je ne veux plus penser à ce point-là. C'est là que mon cerveau entre dans mes doigts, dans mes mains. Cette partie physique est quelque chose qui est intérieurement moi, comme en tant que personne, mais au moins, en même temps, c'est aussi pas moi. Ouais, c'est quelque chose qui t'échappe en même temps. Alors, dans ce sens-là, ça ne pouvait pas jamais être une illustration de quoi que ce soit.
En regardant vos tableaux, j'ai l'impression que vous avez grand plan, vous avez détaillé aussi. Mais dans les deux cas, j'ai l'impression que vous avez tous un regard lointain, mais vous cherchez jamais le détail très codé, très strict, avec un regard près. Et vous avez toujours c'est une sorte d'impression, mais capturant des essentiels. Et
oui. Comme plupart des peintres, je travaille avec un miroir. Et le miroir qu'on peut avoir dans la main, on peut détourner l'image, qui est important avec des images figuratives, parce qu'il y a la gravité qui entre encore dans l'image ou la figuration, qui existe moins dans l'abstraction. Et dans ce sens-là, le détachement est supérieur, elle est très importante. Et aussi pour les détails, c'est-à-dire quand je peins des détails, ce sont déjà des agrandissements, c'est-à-dire le détail devient le tout en certains points. Parce que ça, c'est le choix. J'ai toujours dit à mes étudiants aussi de peindre dont on est intéressé, dont on ressentit l'intérêt, sinon on ne peut pas peindre. Et le reste va s'incorporer d'une autre manière. Alors c'est une manière de faire un focus sur ce qui est relevant ou ce qui n'est pas. Il y a des différents liens pour ça. Il y a des liens simplement de l'expérience, de choses qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut faire, vraiment des trucs très directs, en fait. Et aussi, on peut faire des choses que personne ne va voir, mais qui sont énormément dans l'invisibilité, mais sont importants pour la visibilité. Alors,
cette visibilité et invisibilité peut-être se trouver sur la première œuvre en entrant que vous avez fait spécifiquement pour cette exposition.
Le body, je veux dire.
Et avec les morceaux de marbre pour faire les mosaïques.
Oui, mais certainement, là, il y a aussi le secret qui est incarcéré dans le mur, en haut, dans l'escalier, parce que là, je démontre l'idée de l'inversement d'une monumentalité, c'est-à-dire qu'on a le grand plan d'à partir d'un tableau qui existe, de 1526, qui n'est pas dans l'expo, mais le tableau même à 50 sur 60 cm, beaucoup plus petit, mais a une monumentalité qui est le même comme, par exemple, dans une autre matière, ce mosaïque. C'est pourquoi qu'on a pu le traduire. Et aussi, dès le premier instant quand le visiteur vient, ils ont deux matérialités, c'est le sol et c'est ce qui est sur le mur, mais dans un format extrêmement différent. Parce que, en fait, le secret, c'est une très petite peinture, mais qui transporte tout le long de ce mosaïque, qui est 9 mètres ou plus. Alors, d'une distance de plus de 15 mètres, on peut encore voir cette petite image.
Je vois la référence de l'histoire d'art que vous évoquez dans l'exposition, par exemple Gauguin, etc.
Il y a une peinture qui fait ça, mais c'est une blague.
Oui, mais bon, là, on voit la succession et l'évolution. Mais
j'ai horreur de cette idée de. D'ailleurs, c'est la première peinture qui est prise d'un film qui était un des premiers films qu'on a fait sur des héros artistes, tu vois, avec tous les préjugés dans le sens l'artiste est fou, l'artiste est romantique, l'artiste est n'importe quoi. Alors, c'est une production hollywoodienne qui est complètement moche. Mais la fin du film, le film est en noir et blanc, la fin du film tourne de noir et blanc en couleur à la fin, où le personnage principal est déjà mort, la femme indigène est en train de rouler dans le sable, et le docteur, qui était le docteur du, notamment, le grand artiste, entre dans un endroit où il y a toutes les œuvres de l'artiste qu'il voulait brûler. Et on voit cette mock-up de Gauguin, par exemple. Hein? Et bon, et c'est ça qui trouve ça drôle. Et d'ailleurs, il y avait aussi les couleurs qui avaient. Il y avait un perroquet qui était dans un bar à Anvers où j'irais tout le temps. Un vieux couple, le bar n'existe plus, mais quand on entrait, le perroquet avait même couleur que dans les peintures, le bleu, le jaune et le rouge, il disait « Allô ».
Si, dans la discipline de plasticité, vous avez une blague de ironie vers Gauguin, mais sur les enjeux même, le terme d'exposition, est-ce que vous avez une référence, je crois, au-delà de ce japonais cannibalisant?
Ah oui, le cannibalisme est quelque chose qui fait partie de notre culture sans qu'on le sache. C'est-à-dire, lui, il était exemplaire parce qu'il était japonais. C'est-à-dire qu'il a mangé une femme de l'Occident. Alors, c'est à cause de ça qu'il a été engagé pour donner des discours et des conférences. C'est un racisme à l'inverse. Et c'est ça qui m'a d'ailleurs culturellement aussi fasciné. Que le type était d'une riche famille, et dans le temps qu'il a fait, le crime qu'il a fait, les juges et la Constitution française ne savaient pas de quoi en faire. Il était répatrié, la famille était fortunée, et il était perdu pendant 3 mois dans un institut psychiatrique, et est ressorti, et il est vivant, il court, il est à Tokyo, il donne des discours. Alors, l'idée de cette idée de et pour lui il est encore pathologique, c'est un homme qui est malade en fait, mais qui est libéré dans cette société à cause du fait qu'ils n'avaient pas vraiment l'issue qui faisait ça aux japonaises. Maintenant ils ont peur parce qu'ils voulaient peut-être faire une japonaise.
Dernière question, quelles sont les réactions de François Pinault vis-à-vis de votre exposition?
Bouche bée. Il était très silencieux quand il est venu il y a le mercredi dernier, je pense. Non, c'était il y a une semaine. Il est venu quand l'expo était juste installée. Et ça lui a plu énormément. Il était vraiment convaincu. Et ça se voit, ça se voyait parce qu'il ne disait pas grand-chose.
Merci beaucoup.
Ok.
RFI, Radio France International.